Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et la petite bande, on se retrouve demain. Nous on est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert, il est entier. Attention à la fermeture des portes et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, ça commence avec le premier grand journal de la soirée, signé Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce 23 décembre commence à Alger bien sûr.
Éminence grise du régime en Algérie, puis symbole d'un système honni par son peuple, le général Ahmed Gaïd Salah est mort. 3 jours de deuil national ont été décrétés. La gare de Lyon envahie par des grévistes à Paris, des banquets organisés à la fin des AG. Le mouvement contre la réforme des retraites ne faiblit pas à Noël, il prend d'autres formes. Et après l'annonce du président Macron de renoncer à sa retraite de chef de l'État, nous poserons cette question: que gagnent les élus après leur carrière politique? L'Église catholique et son effort de transparence contre les abus sexuels et légionnaires du Christ publient un rapport sans concession.
À 18h15, un jour dans le monde, nous aussi Amélie, nous sommes en Algérie qui a peut-être été prise un peu par surprise par la mort du général Salah, ou pas du tout d'ailleurs, on le verra avec notre premier invité. Le bruit du monde est en Birmanie. Et puis 19h20, le téléphone sonne, la génération des baby boomers contre la vôtre, Amélie, celle des millennials. La réforme des retraites a réveillé cette vieille fracture générationnelle. Y a-t-il vraiment une génération qui a tout eu contre celle qui doit réparer les pots cassés? Ou au contraire, génération solidaire au pluriel? Allez-y, le standard c'est le 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc un pilier du système qui est tombé.
Le chef d'état-major des armées depuis 15 ans en Algérie, le général Ahmed Gaïd Salah, est mort d'une crise cardiaque. Il avait 79 ans. Nommé par Bouteflika, il lui avait tourné le dos face au Hirak, la contestation populaire. Mais pas question pour lui de céder aux autres revendications. Pas question d'être l'artisan de la fin d'un système qu'il incarnait. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Amélie.
La mort d'Ahmed Gaïd Salah peut-elle être un tournant dans ce mouvement de contestation qui secoue l'Algérie depuis des mois?
Alors un tournant peut-être pas, mais la disparition brutale du puissant général omniprésent, voire omnipotent sur la scène politique algérienne, va au minimum laisser un vide et changer les habitudes de l'armée, à entendre Faisal Metaoui, journaliste du site d'information Tout sur l'Algérie.
Je pense que l'armée va plutôt se retirer de plus en plus du champ public, puisque Gaïd Salah aura été le chef d'état-major qui aura fait plus de discours de toute l'histoire de l'armée. Il en a fait presque une quarantaine depuis le 22 février dernier, c'est-à-dire le début de la contestation en Algérie.
Alors au fond, personne ne s'y trompe, l'armée va rester la colonne vertébrale du régime, une constante depuis l'indépendance. Mais la disparition de Gaïd Salah pourrait être une opportunité pour le président Tebboune. Élu il y a 10 jours au terme d'un scrutin boudé par les Algériens, il a été adoubé par Gaïd Salah et s'apprêtait à devoir composer avec lui. Saura-t-il du coup s'affranchir de la tutelle de l'armée? Le voudra-t-il? C'est en tout cas sur les actes que l'attendent les manifestants, comme Amira, étudiante à Alger.
C'est pas un problème de personne, c'est un problème de système corrompu. On est sorti le 22 février contre ce système, mais on est toujours là contre ce système. Notre problème n'était ni Abdelaziz Bouteflika, ni le Gaïd Salah. On s'en fout. On est là contre le système. Et ce système est toujours là. Alors on est toujours dans les rues.
Et ils y seront demain encore. Premier jour de deuil national, mais aussi journée de manifestation étudiante comme tous les mardis depuis 10 mois.
Merci Louise Baudet. On continue d'en parler dans Un jour dans le monde, Fabienne.
Absolument. On y revient juste après ce journal, Amélie. Oui, la contestation en France, cette fois, ne s'arrête pas pour Noël.
Pas de trêve. Le trafic reste difficile à la SNCF et à la RATP pour ce 19e jour du mouvement contre la réforme des retraites. Demain, par exemple, les Transiliens en région parisienne s'arrêteront progressivement à partir de 18h jusqu'à au moins mercredi après-midi. Et la journée d'aujourd'hui a été marquée par des actions parfois spectaculaires, comme à la gare de Lyon à Paris. Manuel Ruffès, des grévistes ont envahi les couloirs de la gare de la station de métro à la mi-journée.
Les gars, bougez pas là-bas,
ils servent ! Ils viennent de sortir de leur assemblée générale et de reconduire la grève une journée de plus. Ils étaient plusieurs centaines, commencent à s'éparpiller en petits groupes, tentent d'improviser une manifestation sauvage. Les forces de l'ordre craignent des actions dans le métro ou sur les voies de chemin de fer. Elles encerclent les manifestants.
On a appris qu'on avait un groupe de collègues qui s'était fait nasser, donc on est venu les libérer. Et du coup, libérer, délivrer, et du coup, on s'est retrouvés nous-mêmes nassés. Voilà. Donc le but, c'était un peu de libérer les copains qui étaient devant. De ce point de vue-là, c'est un échec parce que du coup, on se retrouve enfermé avec eux.
Impossible d'entrer ou de sortir de cette nasse. La situation va durer comme cela plus d'une heure, avec quelques moments de tension, sans décourager les grévistes.
Le but, c'était un petit peu de montrer un peu qu'on est encore là et qu'on lâchera rien et qu'on est aujourd'hui encore en grève et tous les jours on perd du salaire et on perd pas du salaire pour rien, on est présent. Donc là on est entouré de CRS, ils sont vraiment soucieux de nous garder ici au chaud.
Finalement, après négociation, les manifestants peuvent sortir au compte-gouttes par petits groupes d'une poignée de personnes et raccompagnés assez loin par les forces de l'ordre pour ne pas pouvoir se rassembler à nouveau.
Le reportage de Manuel Ruffez. D'autres actions plus festives ont eu lieu à Orléans, par exemple, avec un banquet, des rassemblements devant les mairies ou les permanences de La République En Marche. Autre cible, les raffineries, celle de l'Avera, à l'arrêt dans les Bouches-du-Rhône. Le dépôt pétrolier de Total à la Med, bloqué depuis le 5 décembre. Les bus au garage à Quimper. Le gouvernement, de son côté, annonce de nouvelles concertations avec les partenaires sociaux début janvier. Ce matin, sur notre antenne, Olivia Grégoire, la vice-présidente LREM de la Commission des Finances à l'Assemblée, estimait à plusieurs milliards d'euros le coût des concessions que le gouvernement mettra sur la table au final. Autre concession très symbolique, celle d'Emmanuel Macron, renonçant à sa future retraite de président de la République. 6 000 euros bruts mensuels. Alors veut-il servir d'exemple? En tout cas, c'est l'occasion de se demander ce que touchent les autres élus, parlementaires et responsables locaux, lorsqu'ils perdent leur mandat. Cécilia Arbonnat a fait les comptes.
Être élu n'est pas un métier, mais une fonction pour laquelle on ne parle pas de salaire ou de retraite, mais d'indemnité et de pension versée par l'IRCANTEC, le régime complémentaire des agents non titulaires. En 2014, 29 500 élus ont stoppé leur mandat et se sont retrouvés nouveaux retraités. La pension annuelle moyenne versée était pour eux de 1 300 euros, soit 108 euros par mois. On est loin de ce que perçoivent les députés et surtout les sénateurs. René Dosière, spécialiste de la gestion des finances publiques.
À l'Assemblée nationale de 2007 à aujourd'hui, la pension d'un ancien député a diminué de 60%. Elle sera, quand un député élu en 2018 partira en retraite, elle sera de l'ordre de 650 euros mensuels.
Alors que les sénateurs partent avec combien aujourd'hui ?
La moyenne des pensions sénatoriales est de l'ordre de 4 500 à 5 000 euros.
Par mois ?
Par mois, oui. Cela correspond à une durée de fonction sénatoriale qui peut s'étendre sur 10 ou 15 ans.
La moyenne d'âge des sénateurs est de 61 ans. Elle est de 49 ans pour les députés.
Par ailleurs, le mouvement de grève a coûté près de 8 millions d'euros à l'Opéra de Paris. 45 opéras et ballets ont été annulés depuis le début du mouvement. Les artistes de l'Opéra de Paris bénéficient d'un régime spécial datant de Louis XIV. Les danseurs sont par exemple mis à la retraite à 42 ans.
En bref, et retour à l'étranger, un verdict très attendu en Arabie Saoudite.
Dans le procès des meurtriers du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné au consulat du royaume à Istanbul en Turquie, les restes de son corps n'ont jamais été retrouvés. 5 Saoudiens sont condamnés donc à la peine de mort. Le tribunal de Riyad a toutefois disculpé 2 des principaux suspects, un conseiller du prince et le numéro 2 du renseignement. Reporters sans frontières estime que la justice a été bafouée. La Turquie juge pour sa part que le tribunal de Riyad est loin de répondre à ses attentes et à celles de la communauté internationale pour faire la lumière sur ce crime et rendre justice. Un mail qui pourrait enfoncer le président Trump en pleine procédure d'impeachment, un courrier électronique d'un responsable du budget américain publié hier. Il demande au Pentagone d'attendre avant de verser une aide à l'armée ukrainienne. Le courriel a été envoyé 1h30 seulement après l'appel du président Trump à son homologue Zelensky. L'Américain est soupçonné pendant ce coup de fil en juillet dernier d'avoir demandé à l'Ukrainien une enquête sur son rival démocrate Joe Biden en échange d'une aide financière et d'une invitation à la Maison Blanche. L'Église catholique doit se battre de son côté avec les scandales d'abus sexuels. Les Légionnaires du Christ viennent de publier un rapport interne sur les agressions au sein même de la congrégation depuis sa création en 1941 jusqu'à aujourd'hui. Un effort de transparence comme nous le raconte notre correspondant à Rome, Bruce de Gelsin.
175 mineurs abusés sexuellement par 33 légionnaires du Christ. L'enquête a duré 6 mois, s'étend sur près de 80 ans, mais conclut qu'il y a probablement plus d'affaires d'abus. C'est une chaîne d'abus qui est mise en cause, avec des victimes qui deviennent agresseurs dans un monde où le silence et le secret sont la règle absolue. Les mineurs qui entrent chez les légionnaires perdent le contact avec l'extérieur. Tout cela est institué par le fondateur, le père Massiel, qui lui seul a abusé de 60 mineurs. Il est mort en 2008, 2 ans après avoir renoncé à son ministère. Martial Massiel avait une double vie, une première femme épousée sous un faux nom et 2 enfants qu'il a abusés, puis une deuxième femme et un 3e enfant. Le Vatican est au courant des abus du fondateur dès 1997, mais il sera protégé pendant 20 ans, notamment par le cardinal ex-secrétaire d'État Sodano, qui à 92 ans a démissionné samedi dernier de son poste de doyen des cardinaux, la semaine même où le pape décidait de lever le secret pontifical sur les cas d'abus sexuels sur mineurs. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Pas question de tourner le dos à l'industrie du charbon, c'est la réaction d'un climato-sceptique. Le premier ministre australien Scott Morrison, au moment où son pays brûle, des feux de forêt attisés depuis des semaines par la sécheresse et les températures caniculaires. Le dirigeant ne nie pas la réalité du réchauffement climatique, mais il refuse de lier la lutte contre cette catastrophe environnementale à des décisions économiques fortes et à l'abandon, par exemple, des énergies polluantes. Des intempéries en France également, avec la tempête Fabien. Les liaisons maritimes aériennes ont repris avec la Corse, coupée du monde, ce week-end à cause de vents très violents et des pistes de l'aéroport d'Ajaccio inondées. Environ 14 000 foyers étaient toujours privés d'électricité aujourd'hui, en Corse et surtout en Nouvelle-Aquitaine. En Bretagne, aujourd'hui, les cours d'eau débordent. Notre reporter François Rivaud s'est rendu à Malétroit, au bord de l'Oust, en vigilance jaune.
Alors sur le pont Neuf, Louis, originaire de Malétroit, regarde l'Oust sorti de son lit.
Ça, c'est l'ancien abattoir. Je me souviens qu'il était très régulièrement inondé. La maison que vous avez là va commencer à être inondée. Je crois que c'est à partir de 3,10 m, 3,20 m qu'il y a vraiment plusieurs dizaines de maisons qui sont touchées.
La cote de 2,84 m a donc été mesurée. Il y a un peu de marge, mais l'eau s'infiltre un peu partout. Louis, un Parisien, a acheté une maison de vacances au bord de l'eau. Son jardin est déjà inondé.
La partie du garage qui est un petit peu plus basse, il y a 20 cm. Et ça vient jusqu'au quasiment au pied de la maison.
Et vous avez acheté une paire de bottes?
Oui.
À Malétroit, le record est à 4,04 m, c'était en 2001, et Philippe s'en souvient.
On a vu jusqu'au portail des religieuses d'abord. Hein.
Portail situé bien évidemment plus haut que le petit parking où se tient Philippe, au bord de l'eau. Dès samedi, le plan de sauvegarde a été activé à Malétroit et la réserve communale de sécurité civile est passée à l'action, raconte Guy, un des volontaires.
On a informé les sinistrés du niveau de montée des eaux. On aide les gens à remonter les meubles et également on apporte un soutien psychologique aux gens, puisque les inondations, ça stresse énormément.
À Malétroit, on scrute le ciel et on espère que la pluie va enfin cesser.
François Rivaud de France Bleu Armorique.
Allez, on termine avec du foot. Amélie, la Coupe de France qui fait rêver tous les clubs les plus modestes, des plus modestes aux plus grands.
Exemple avec cette rencontre entre le PSG et l'INAS Montlhéry dans l'Essonne, équivalent de la 6e division. Le match se tiendra le 5 janvier prochain, 32e de finale au stade de Bondoufle, devant près de 15 000 spectateurs. Les derniers billets mis en vente hier se sont arrachés en une heure. Reportage avec Alexandre Frémont.
La billetterie s'ouvre à peine que les places partent par dizaines.
Monsieur, bonjour, combien de places ? 6.
Au bout d'une heure, les 3000 tickets imprimés sont vendus.
Alors donc, il n'y a plus de place, il n'y a plus de carton. Donc on va vous réserver vos places et vous viendrez les chercher à partir du 26.
Angelica, survêtement du PSG sur le dos, se retrouve donc avec des préventes à venir chercher plus tard, en espérant qu'elles soient bien là.
J'ai bien les avoir au moins. J'espère, normalement il n'y a pas de souci. Déjà il y avait une prévente qui s'était mal passée, donc des fois ça met un peu toujours le doute quoi. Et après on est toujours un petit peu, on se dit on va les avoir ou pas ces places? Non, là normalement c'est bon là.
D'autres au contraire repartent avec leurs places en poche. Il faut dire qu'ils sont arrivés très tôt. Jean-David et Laurent par exemple, deux amis qui ont sourire aux lèvres.
Très content, oui. Ça a été assez vite, on est arrivé à 9h moins le quart et puis là...
Ils ont ouvert à 9h, ils ont ouvert une heure en avance. On a dû attendre 3 quarts d'heure.
Les places sont pas chères en plus, donc très bien.
Et même si c'est plus d'une heure d'attente, ça valait le coup pour Julien et Marine, un couple venu de Bondoufle.
Pour aller à pied à côté de la maison, parfait.
On a bien fait de se lever tôt.
C'est surtout pour notre fils qui joue au club de Bondoufle en fait. On a fait le déplacement pour que j'aille avec lui du coup, fan du PSG.
Au total, sur les 15 000 places disponibles dans le stade Robert Bobin de Bondoufle, là où se jouera la rencontre, plus de 13 500 sont prises. Le reste sera proposé ces prochains jours aux internes du club de l'INAS Montlhéry.
Vous avez un pronostic, Fabienne, l'INAS Montlhéry PSG?
Ouais, j'ai envie de dire.
Allez-y, mouillez-vous un peu.
J'ai envie de dire 4-1 pour Lina Smontléri.
Eh ben évidemment, voilà, 4-1, ce sera le 5 janvier.
Mais si je gagne, je suis riche après ça.
Ah, faut parier, faut
Amélie,
parier.
Vous revenez tout à l'heure quand même dans
Sous
les radars, absolument. Moi, dans un instant, je vous emmène en Algérie, puis en Birmanie, dans une communauté bouddhiste. Et puis notez-le déjà, le téléphone sonne. Ok, boomer, contre calme-toi, fiston. C'est la réforme des retraites qui a réveillé cette vieille querelle. Y a-t-il une génération de privilégiés? Les baby-boomers contre ceux qui ramassent les morceaux, les millennials. Est-ce que on fait preuve d'injustice avec les plus jeunes? Est-ce que la lutte des classes est devenue la lutte des âges? 01 45 24 7000, le standard est ouvert. Allez-y, plein de générations Z d'ailleurs, encore plus jeunes. Allez, et sinon, pour le réveillon, demain, on s'habille comment?
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des œufs fermiers de poule en liberté. Loué, libre par nature.
Et Jean-Pierre Hameau, apparemment, donc on s'habille en moon boots puisque le risque d'avalanche est élevé dans les Alpes du Nord.
Oui, oui, il faudra être extrêmement prudent hein, ce soir et demain sur l'ensemble du massif des Alpes du Nord. Le manteau neigeux n'est pas stabilisé, le vent est toujours fort sur les crêtes et avec une élévation d'ici demain matin de la limite pluie-neige vers 2000 mètres, les conditions seront favorables pour déclencher des avalanches de grande ampleur. Et attention, hein, ce risque d'avalanche sera important aussi sur les hauts massifs de l'Isère. Et puis demain, dans les autres régions, à prévoir de faibles pluies sous un ciel couvert de l'Aquitaine au nord des Alpes, en passant par le sud du Massif central, des averses au nord de la Seine jusque vers la région Grand Est et partout ailleurs, vous profiterez d'assez belles périodes de soleil.
Et sinon, tant qu'on y est pour la journée de Noël?
Nuageux sur une bonne moitié nord du pays, mais aussi vers la Gironde et le long de la Garonne, et partout ailleurs, vous profiterez du soleil.